Merci de m'avoir proposé de partager quelque chose ce matin. Et un sujet que j'ai choisi, c'est Isaac. Et je sais que vous l'avez étudié en détail, en réunion d'études ici, au cours de la Genèse. Et pour ma part, j'ai choisi de réfléchir un peu sur ce personnage parce que je ne l'aimais pas. Et dans cette trilogie dans laquelle Dieu se décrit lui-même, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui, comme ça, il se déclare à Moïse. Et puis le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc en particulier, explique ce qu'est la résurrection et le pourquoi l'annonce de la résurrection au travers de cette déclaration. Cependant, dans ces trois patriarches, je trouvais qu'Isaac était un peu le maillon faible. Dans Abraham, on voit le père de la foi, le fondateur des trois religions monothéistes, on voit l'homme qui est appelé, choisi, qui répond, Dieu lui demande et il fait. Et dans son premier appel, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je te dirai. Je ne sais pas si vous vous êtes projeté dans Abraham qui rentre chez lui, qui dit à Sarai, fais les valises, on s'en va. Ah bon? Et on s'en va. Quand? Maintenant? On s'en va où? Je ne sais pas. Qui t'a dit de partir? Je ne sais pas. Un Dieu nouveau, inconnu? Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le couple, mais je me projette et je... Voilà, bon. Jacob, lui, alors on se retrouve plus dans Jacob, c'est lui qui passe un peu à côté, pour lui, la fin vaut les moyens, pour lui, il combat même avec Dieu, il est toujours dans des luttes, des difficultés, avec son beau-père, avec ses enfants. Sa vie est compliquée, il le dira à la fin. Alors là, on se projette mieux. Mais alors Isaac, c'est le pleurnicheur, il a des problèmes avec son demi-frère, ça se passe pas bien, on est obligé d'aller lui chercher une femme parce qu'il n'est pas capable de la trouver tout seul. Rebecca, elle trafique un peu à côté et c'est pas toujours simple. Ses enfants, c'est catastrophique. Et voilà, pour moi, c'était un faible, c'était quelqu'un qui n'était pas très intéressant. Alors, vous savez, quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, le mieux, c'est de s'en approcher et de s'intéresser à lui. Et comme ça, on essaye de lui découvrir des qualités. Et souvent, en connaissant, on perd un peu cette distance. Isaac, il se fait attendre. Il faut que son père ait 100 ans pour qu'il arrive à naître avec une mère de 80 ans. Bon. Donc la promesse était faite et donc son histoire commence au chapitre 21 de la Genèse. Et Dieu visita Sarah comme il l'avait dit. Et Dieu éternel fit à Sarah comme il en avait parlé et Sarah conçu et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsque son fils lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire, de se moquer. Quiconque l'entendra se moquera de moi. Et elle dit, puis dit à Abraham, Sarah allaitera de fils, car je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse. Et alors, au temps de la promesse, là, juste avant, il est dit que Ismaël, donc qui était le premier né d'Abraham, parce que Sarah avait pensé qu'il fallait un peu aider Dieu, donc elle avait bricolé avec son esclave, et donc un fils était né. Et on voit que on va voir un peu plus loin que Abraham aimait ce fils, puisque lorsqu'il va y avoir une fête, l'enfant est sevré et Abraham fait une fête pour le sevrage de l'enfant, peut-être ses 4 ans, 5 ans, c'est pas très bien. Et le fils d'Agar, Ismaël, se moque de ce petit garçon. Et donc Sarah se fâche et demande à Abraham de chasser la servante, chasser l'enfant, qui donc a 14, 15 ans, 16 ans. Et pour Abraham, c'est pas bon, il est très irrité, très fâché. Mais Dieu confirme la parole de Sarah en lui disant, mais chasse la femme, chasse l'enfant. Et donc, il les envoie au désert avec une outre d'eau. Et donc, il y a tout un passage où Dieu va s'occuper de l'enfant. Et puis, on arrive au chapitre 22. Dieu éprouve Abraham et lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, c'est très précis, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin. Il fait beaucoup de choses de bon matin, Abraham, parce que pour Ismaël aussi, il s'était levé de bon matin. Il prend son âne, ses deux jeunes hommes, Isaac, il prépare le bois et il s'en va. Puis au bout de 3 jours, il laisse les deux jeunes et puis restez ici avec vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Donc il avait déjà une idée du retour. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste, le mit sur Isaac, son fils, il prit son feu, le couteau, ils allaient ensemble. Et Isaac dit, mais voici le feu, le bois, mais où est l'agneau? Et Abraham répond, Dieu s'en pourvoira. Et puis ils arrivent à l'endroit prévu. Abraham fait un autel, il arrange le bois. Et là, il attache son fils. Et il le met sur l'autel. Il prend son couteau. Et là, l'ange le retire. Et puis, donc, il y a ce bélier qui est là et qui fait office de sacrifice. Et Dieu honore la foi d'Abraham en disant, voilà, tu n'as pas refusé ton fils. Et donc on en fait une image messianique du Seigneur qui vient et qui se donne la demande de son Père. Mais ça, c'est le côté de la relation Dieu-Abraham. Mais si on réfléchit à la relation Isaac, Abraham, quel est ce père qui tue ses enfants? Quel est ce père qui a déjà pris Ismaël pour l'envoyer mourir au désert? Quel est ce père qui prend Isaac et qui le prêt à le sacrifier sur un autel? Quelle est la position de l'enfant qui voit ce père prêt à tuer ses enfants? C'est pas très bien. Alors on lit souvent ce passage de Genèse 22 dans l'idée que voilà, c'est une représentation du Seigneur Jésus. D'accord. Cela dit, est-ce que dans Ismaël, on y voit l'image du bouc Azazel envoyé charger les péchés du peuple, partir mourir dans le désert? Je n'ai jamais trop entendu, mais il y a aussi le côté d'Ismaël qui lui est sacrifié. Il n'y est pour rien, ce pauvre garçon. Ses parents ont fait des bêtises à un moment. Et lui, il est héritier de tout ça et on l'envoie mourir. Mais il y a quand même une bénédiction qui est mise sur lui puisqu'il sera père de grandes nations. Et cela dit, les moqueries du verset 10, je crois, elles continuent. Et aujourd'hui encore, Le conflit Ismaël et Isaac n'est toujours pas résolu et la colère de ces peuples vient d'origine de cette frustration. C'était le fils aîné, c'était l'héritier et on voit que il ne le sera pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours cette colère qui les partage ces deux peuples. Bon, Isaac revient avec son père. Il y a une bénédiction qui est donnée sur la semence, donc déjà sur Isaac, parce que Abraham a écouté sa voix. Et puis au chapitre 23, c'est la mort de Sarah. Et puis arrive le chapitre 24, Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et donc il faut qu'Abraham appelle son serviteur le plus ancien et lui demande d'aller chercher une épouse pour son fils. Et voilà que pour pas qu'il épouse une fille du pays. Et voilà que ce serviteur part et il retourne dans la famille d'origine, chez le frère d'Abraham, qui a eu une semence, et puis ça avait été raconté un peu avant. Et puis avec tout un parcours, il trouve Rebecca, et donc il apprend qu'elle est la fille de Bethuel, qui venait de Nakhor, qui était le frère d'Abraham. Et donc il rentre dans la maison, le serviteur y en donnait des bracelets déjà aux mains de Rebecca. Laban, qui est le cupide, vient là et voit un petit peu que ça se passe. Et il fait parler le serviteur qui raconte pourquoi il est là. Et donc ils s'en vont. Laban aurait bien aimé le retenir un peu, mais Rebecca décide, je veux partir, j'irai. Et les voilà partis. Rebecca arrive, Isaac la voit de loin, et c'est ce qui va le consoler de la mort de sa mère. Alors c'est une belle image, ça semble être une belle histoire, mais comment est-ce qu'on entre dans le mariage avec quelque chose qui n'est pas réglé? Comment est-ce qu'on entre dans le mariage avec une valise, des valises, avec une épouse, c'est pas celle qui doit consoler. Une épouse, des pertes anciennes. Sinon, c'est trop lourd. Et puis, on a un déséquilibre, parce que l'équilibre se fait, tu me consoles et je viens pour te consoler. Et puis, quand la consolation est arrivée, alors la balance bascule, parce que celui qui console est toujours en train de consoler, sauf que l'autre n'en a plus besoin. Et donc, on en rentre dans un rapport qui n'est pas très juste et qui peut faire que le mariage peut être douloureux. Alors là, c'est de la consolation, mais dans d'autres cas, c'est d'autres besoins. Et pour ceux qui sont en perspective de se marier, ou pour nous, parents qui accompagnons des enfants qui vont l'être, il faut vraiment préparer cela et pouvoir s'engager dans le mariage en ayant réglé les difficultés du passé. Je pense qu'Isaac s'est beaucoup rapproché de sa mère suite à la difficulté ressentie avec son père. La Bible n'en parle pas, mais voilà, on peut avoir des souffrances familiales, d'héritage, et d'héritage familial. Préparons-les, gardons-les, réglons-les. Et entrons dans le mariage en toute liberté. Faut parfois se faire accompagner, aider. On peut en parler entre amis, on peut en parler avec quelqu'un qui a même de conseiller, d'aider, pour pouvoir apaiser ces choses. Alors on passe sur la généalogie de. On voit que Abraham, au chapitre 25, va se remarier après le décès. Ici, il épouse Keturah, et là, il va avoir six enfants, si je me souviens bien. Et puis, avant de mourir, au verset 6 du chapitre 25, Abraham, il envoie tous ses enfants-là, il les disperse en Orient, il les envoie loin. Et il laisse le champ libre, et il donne l'héritage à Isaac. Et donc Isaac avait déjà 40 ans lorsqu'il prend Rebecca pour femme. Et puis voilà que cette femme aussi est stérile. Et que je crois que ça dure une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Et puis finalement, il l'intercède. Il intercède pour sa femme. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Et qu'il y a deux enfants. Alors l'intercession, c'est très beau. Et on voit ce mari qui intercède pour sa femme. Peut-être qu'ils auraient pu intercéder ensemble, mais c'est pas dit. Et cette intercession, cette supplication à l'Éternel. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est surpris de voir que Abraham, qui a beaucoup intercédé pour Lot, pour qu'il soit épargné de tout ce qui va tomber sur Sodome et Gomorrhe, ne va pas supplier l'Éternel quand il lui est demandé de sacrifier ses fils. Vous me direz, la supplication pour Lot, pour le résultat qu'elle a donné, qui était plutôt catastrophique, je ne sais pas si elle en a tiré une leçon, mais voilà, on peut se poser quelques questions. Mais il a choisi de ne pas intercéder et d'obéir sans discuter. Et là, donc, il intercède, Isaac intercède pour sa épouse, et voilà qu'il y a deux enfants dans son sein. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans son ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Bon, déjà, les problèmes sont annoncés, c'était prévu. Vous allez voir, ça va être compliqué. Deux jumeaux dans son ventre, le premier sortit roux, tout entier, comme un manteau de poil. Ils appelèrent son nom Ésaü, qui veut dire velu, poilu. Ensuite sortit dans son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on appela son nom Jacob, menteur, supplanteur. Et donc il faut imaginer ce garçon, hein, qu'on appelle menteur, viens mettre la table, menteur, range ta chambre, menteur, vide le lave-vaisselle. Enfin, pas tout à fait à l'époque, mais voilà, il faut se projeter, voilà ce que ça veut dire. Toute la journée, toi, supplanteur, menteur, tricheur, c'est son nom. Et effectivement, il va bien le porter. Et Isaac était âgé de 60 ans, donc voilà, c'est ça, c'est là où on voit les 20 ans d'attente. Bon, quelquefois, on entend des personnes qui, au bout de 2 ans, n'ont pas réussi à avoir un enfant, catastrophe, on commence à s'inquiéter. Voilà, 20 ans, 20 ans de supplication, 20 ans d'attente. Les enfants sont très différents, bien qu'ils soient jumeaux. Il y en a un qui est l'homme des champs, qui est toujours dehors. Il verra après que ses habits sont imprégnés de l'odeur des champs. Il aime la chasse. Et puis l'autre, il préfère rester à la maison. C'est plutôt l'homme de l'intérieur. On dit qu'il était simple. Et alors, deux enfants, deux parents. Et là, il y a un choix. Et on voit qu'Isaac préfère Ésaü, il se projette plus. Et Ésaü est un chasseur, et il semble qu'Isaac soit gourmand. Mais par contre, Rebecca, elle aime Jacob. Alors ça, c'est la jalousie des frères, c'est la difficulté qu'ont quelquefois les parents à se consacrer plus à un enfant. Alors il y a des affinités, quelquefois, on a plus de liens, d'affinités avec un enfant. Il comprend que Isaac aime beaucoup Ésaü à cause de la chasse. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une préférence? Et peut-être que Rebecca, pour compenser, se dirige vers Jacob. Parce que la maman, elle sent qu'il y a une souffrance, alors elle va compenser. C'est pas quelque chose de très juste. Et c'est quelquefois quelque chose de difficile pour nous parce qu'il y a une affinité qui fait que le lien est meilleur. Et puis, quand avec un enfant, la relation est plus difficile parce que les caractères sont différents, parce qu'on se comprend moins bien, parce qu'on n'a pas la même façon de réagir. Alors, quelquefois, c'est plus compliqué. Quand on est enfant, c'est difficile de ne pas se sentir aimé. En tant que parent, on fait des erreurs et il est bien qu'on puisse avoir quelqu'un qui soit médiateur ou... Bon, on va raconter une histoire personnelle, hein, mais beaucoup sont présents ici. Quand nous étions jeunes mariés et qu'on a eu notre premier enfant, il y avait ma petite sœur qui était pas loin et qui venait garder nos enfants. Et puis un jour, le soir, quand on rentre, les enfants étaient couchés, dormaient, et puis Catherine dit, ben, je voudrais vous parler avant de partir. Et elle dit, mais vous savez, Evody m'a dit qu'elle a l'impression que vous ne l'aimez pas. C'était un choc, hein, je rappelle. On avait raté une marche, quoi. Et voilà, on était des parents, premier enfant, on voulait faire bien, et nous avons trop insisté sur le... C'est important de bien faire et de pas... C'est peut-être trop légaliste, je sais pas. Enfin, en tout cas, on avait trop insisté sur les règles et pas assez sur l'amour. Bon, et heureusement, quand il y a quelqu'un au milieu qui peut informer... Donc, voilà, pour une note de nos filles, nous avons une marraine qui est beaucoup intervenue aussi en médiation. Et voilà, c'est important en tant que parent de trouver ce lien et peut-être en tant que parrain, d'être ce médiateur qui peut intervenir et être cette oreille confidente, d'avoir il n'y a pas de lien d'autorité, il n'y a qu'un lien d'amour qui se crée. Et c'est important de pouvoir ainsi peut-être débriefer des problèmes qui n'existent pas en fait, mais qui sont ressentis quand même avec une souffrance. Bon, on voit que la jalousie va prendre forme, hein. Après, vous connaissez l'histoire du potage, du droit d'aînesse. Voilà, Ésaü était très impétueux, il avait faim, il voulait cette soupe, et allez, oui, mon droit d'aînesse, je m'en débarrasse, je n'y accorde pas de valeur. Et puis, on continue l'histoire. Isaac fait des pactes, fait des accords. Et puis, il y a une famine. Et là, on voit le vrai métier, c'est la fin du chapitre 26, les vrais métiers d'Isaac, c'est puisatier. Il va creuser des puits. Alors on peut y voir une application morale, hein. Il va commencer par recreuser les puits d'Abraham. Il va aller rechercher ce qui était la nourriture. Et on voit que beaucoup de bénédictions que Isaac recevra ont été données à cause de ton père Abraham. Et parfois, plusieurs d'entre nous sommes héritiers de familles chrétiennes, croyantes, de ce privilège d'avoir aussi... dans nos familles, des croyants qui ont prié pour nous, qui ont été des serviteurs de Dieu, et nous sommes héritiers de ces bénédictions et de leurs prières. D'autres ne sont pas dans ce cas-là et ont le privilège de la fraîcheur. De la fraîcheur parce qu'ils découvrent tout, parce que, y a une bascule. Et quand je vais en Afrique, je voyage, que je dis que dans ma famille, on est croyant depuis des milliers, plus de... On a retrouvé des générations. Quelqu'un a fait des recherches, a trouvé qu'on avait un ancêtre qui est allé délivrer le tombeau du Christ en l'an 1000. Donc, bon, ça pose son homme, hein, n'est-ce pas? Et que je vois des gens qui sont... sortent du paganisme, qui sont primo-accédant à la foi, c'est aussi... des choses extraordinaires. Alors, quelquefois, il y a aussi des liens à couper. Enfin, bon, voilà, il y a du pour et du contre. De toute façon, on ne choisit pas, c'est comme ça. Et donc, c'est beau d'être un primo-accédant, de démarrer une lignée de chrétiens. C'est aussi magnifique. Et puis, pour ceux qui sont héritiers d'une lignée, alors, dans l'Apocalypse, il est dit, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Et le choix de la vie, il est personnel. Et c'est pas parce qu'on a eu des générations de chrétiens avant soi que ce n'est que de la responsabilité en même temps que le privilège. Et donc il faut faire un choix personnel. Et donc Isaac va commencer par creuser ses puits d'eau, hein, de nourriture, de vie. Il va commencer par recreuser les puits de son père. Il va aller rechercher ce qui avait été fait. Et puis à un moment, ça ne va plus marcher parce que les circonstances du monde, parce que les gens qui étaient autour vont le repousser, le repousser. Et il va falloir qu'à un moment, il puisse creuser ses propres puits. Et ça va marcher. Dans l'héritage aussi, il va avoir ce problème avec Abimélec, dans lequel son père avait dit un demi-mensonge, Sarah est ma sœur, parce qu'il avait peur que Abimélec le tue pour récupérer Sarah, qui était à 80 ans toujours, une très belle femme. Eh bien, Isaac va retomber dans la même erreur, il va retomber dans la même histoire. Et pourtant, à cette époque-là, le soir, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on racontait les histoires. Les histoires se racontaient, les serviteurs devaient parler de cette fameuse aventure renouvelée après le pharaon. Eh bien, Isaac va retomber. Et là, Abraham avait dit un demi-mensonge. Et lui, il va dire un mensonge complet. Et voyez l'héritage familial. Abraham est un demi-menteur, Isaac est un menteur. Jacob, c'est son nom, menteur. Et donc si on ne coupe pas, si on ne dit pas dans notre famille, nous ne serons pas des menteurs, si on ne coupe pas la chaîne, alors on reproduit la difficulté. Et Isaac a reproduit l'erreur de son père, et dans la famille de Jacob, alors, ça va être des problèmes moraux qui vont se succéder entre les enfants. Enfin, ça va être assez catastrophique sur ce plan-là. Mais on va trop loin. On trouve après une difficulté à la fin du chapitre 26. Ésaü, donc l'autre frère, était âgé de 40 ans et il prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmath, fille de Élom le Héthien, et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Là, les couples se retrouvent. Il y a un moment où l'enfant quitte. Alors, les circonstances ne sont plus tout à fait les mêmes, hein, mais voilà, Ésaü, il a voulu prendre ses femmes tout seul. Et il n'a pas reproduit le schéma de son père, et il s'est débrouillé tout seul, et il prend deux femmes du pays. Et donc ça se passe mal. Ça se passe mal, et c'est une souffrance pour Isaac et Rebecca. Et je me souviens d'une discussion avec des amis, et nous étions encore avec des enfants jeunes. Comment fait-on quand un de nos enfants s'engage dans le mariage ou dans une relation qui nous paraît compliquée, inadaptée, injuste, difficile, sujet à grandes difficultés? Et à l'époque, voilà, Isaac a laissé faire, et maintenant, pour nous, on n'est plus en capacité de dire non, évidemment, face à un enfant adulte qui est dans ses responsabilités. Mais aussi, on a un rôle de conseiller en tant que parent. On voit arriver les difficultés. On sait qu'elles vont être là. On sait que ce n'est pas un bon chemin. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que la parole de Dieu nous enseigne à dire la vérité. et dire que voilà, on ne se met pas sous un joug mal assorti avec un incrédule, par exemple. On peut expliquer ce qui nous paraît pas bon, dangereux, difficile. Annoncer que nous, il nous semble que pour l'instant, il va y avoir des pleurs au bout. Et puis, si l'enfant écoute et continue à faire son chemin, alors, il nous reste une chose à faire. Enfin, deux. Prier. Toujours prier. Et puis aimer. Et montrer de l'amour. Y compris à ce futur conjoint ou ce conjoint qui ne nous paraît pas adapté. Dans les générations qui nous ont précédés, alors on coupait le lien, on repoussait, on montrait de la séparation, etc. Je ne crois pas que ce fût juste et les résultats n'ont pas été fameux. Et il me semble que la seule façon de pouvoir essayer de modifier la chose, c'est d'apporter de l'amour et d'apporter du lien. Ne serait-ce que pour pouvoir, si les choses vont mal à un moment, ouvrir les bras et consoler. C'est une grande difficulté. Là, il y a juste un petit verset, un petit morceau de verset, là, verset 35. Une amertume d'esprit. Et voilà, je vois qu'il y avait beaucoup d'enfants ce matin, et c'est vraiment une joie et un plaisir, et que nous n'avons pas la grâce de vivre à Aix. Mais quand les enfants sont petits, on peut encore essayer de les accompagner. Mais quand les enfants sont grands, eh bien, voilà, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. C'est quelquefois difficile. Bon, je crois qu'on peut prier pour nos enfants toute notre vie, hein. Et nous avons une maman qui a 94 ans bientôt. Le Seigneur la conserve sûrement pour prier pour nous, hein. Voilà. Et puis arrive la fin d'Isaac, il est vieux et il est appelé à donner une bénédiction. Et c'est ce qui va être retenu de lui dans Hébreux 11, qui est un peu le palmarès de la foi. Et alors, ça aussi, ça m'avait choqué en disant, ah ben, par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü. Ça lui est reconnu comme un diplôme. Attends, il s'est fait tromper, il s'est fait avoir. Et je vois pas en quoi il y avait la foi, là. C'était juste, bon, il s'est fait embrouiller dans l'histoire. Et c'est tout. Donc je trouvais que c'était injuste qu'on lui reconnaisse ça, alors qu'il s'est fait juste embrouiller, quoi. Bon, mais c'est quand même retenu, et c'est une grâce que Dieu lui tient. Et donc, il veut donner une bénédiction, mais auparavant, il veut quand même faire un bon repas, hein. Et c'est important. Et donc, il envoie son fils aîné, Ésaü, à la chasse, et sentant qu'il va mourir, et il l'envoie, sauf que pour pouvoir le bénir au retour, à la fin du repas. Et Rebecca entend ça, et comme elle préférait Jacob, elle va avec ce côté un peu de sa famille aussi, hein. Laban, c'était quand même un trompeur, comme ça le sera de façon évidente avec Jacob, il va le dominer par la tromperie. Et donc elle essaye de tromper, elle engage Jacob à tromper son père avec toute une astuce. Il prend les vêtements de son frère, qui sont des vêtements qui sentent l'herbe et les bois. Il se couvre d'une peau de chèvre, et il prépare deux cabris bien faisandés pour faire un gibier, et le père se régale et il bénit le fils, et il bénit Jacob sur une supercherie. Et Dieu laisse faire. Et Dieu laisse faire. Et il nous est dit quelque part que Dieu a aimé Jacob et l'a préféré à Ésaü. C'est traduit par haï. Mais je ne pense pas que Dieu haïsse quelqu'un, mais voilà, il a préféré Jacob. Il a préféré l'affection, la douceur, l'amour de cet homme qui va aller jusqu'à lutter avec Dieu. Il est dans cette relation très forte. Et voilà que la bénédiction est sur lui. que des peuples te servent, que Dieu te donne de la rosée des cieux, de la graisse de la terre, une abondance de froment et de moût, que des peuples te servent, que des peuplades se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit qui te maudit, béni qui te bénit. Et puis quand la bénédiction est donnée, voilà que Jacob ressort, Ésaü arrive, prépare sa chasse et l'amène, et le père dit non mais c'est trop tard, c'est trop tard. Et il veut le retour de la bénédiction, mais c'est pas possible. Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Bénis-moi, mon père. N'as-tu pas une seule bénédiction pour moi? Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Tu vivras de l'épée. Tu serviras ton frère. Tu seras nomade. Et donc Ésaü eut Jacob en haine. Donc Ésaü va partir, il va se retirer. Alors l'histoire dit que c'est Abdias, c'est ceux qui vivent dans le rocher, ça serait ceux qui sont à Petra. Cette nation qui a disparu au niveau de l'an zéro, là, ils ont disparu, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, les Nabatéens. Ils se sont opposés à Israël, ils ont barré le passage dans la vallée des rois. Il y aura toujours une querelle, même si ils se rassemblent le temps de quelques moments. Je voudrais juste finir en disant qu'il y a quelque chose de curieux que je n'explique pas très bien, c'est qu'à la mort d'Abraham, il est dit que Ismaël est là et Isaac est son fils. Et puis, ou c'est l'inverse. Et donc, à la mort d'Isaac, les deux frères vont se retrouver. Au pied de la tombe avec leur fils. Voilà cette histoire d'Isaac qui se termine au chapitre 35. Et donc là, Ésaü, verset 29 du chapitre 35, Isaac expira et mourut et fut recueilli vers ses peuples âgés et rassasiés de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Et il avait 180 années. Longue vie, peut-être sans le relief de celle de son père ou de ses fils, mais peut-être plus tranquille. Il aura recherché l'héritage, il aura cet héritage parce qu'il y a beaucoup de bénédictions lui sont données à cause d'Abraham, ton père, qui a été fidèle. Il aura su rechercher les puits, les fondements. La nourriture que Abraham avait laissée. Il aura eu une vie de couple un peu particulière, peut-être en compensation du départ de sa mère. On voit quand même que Abimélec le surprend en train de faire l'amour avec sa femme, donc ils avaient quand même une relation profonde. Et ils vont avoir avec leurs enfants un comportement un peu particulier avec chacun un favori, et donc ça nous parle aussi hein, avec nos enfants, comment est-ce que nous fonctionnons. Ils vont avoir beaucoup de soucis avec leur belle-fille, et c'est pour ça que Rebecca enverra Jacob hein, après la dispute avec Ésaü, et l'enverra retourner chez Laban dans sa famille. Laban qui n'était pas non plus quelqu'un de très honorable, mais voilà, il va revenir avec deux épouses. Et deux concubines en plus. Je pense que dans cette histoire, il y a des choses qui peuvent nous aider dans notre vie personnelle, de famille. Dans toute la trilogie, on a beaucoup attiré de la façon dont elle a fonctionné. Des héritages familiaux, des disputes, des tensions qu'il y a, des solutions un peu scabreuses mises en place pour essayer d'aider Dieu dans les difficultés qui sont les nôtres. Voilà, et Jacob qui va être héritier de tout ça avec une grande lourdeur dans sa famille aussi. Eh bien, voilà, Isaac est au milieu. C'est peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui le chrétien ordinaire, plus dans une vie réglée. Voilà, il a son bétail, il creuse des puits, il s'enrichit, il grandit, il grossit. Il ne fait rien d'exceptionnel. Mais il a les mêmes difficultés que beaucoup d'entre nous, avec ses enfants, avec ses belles-filles. Dispute entre les enfants, dispute entre les frères, dispute entre les frères et sœurs. Il y aura après une difficulté au niveau d'héritage avec les deux fils qui auront bien réussi, puis un qui voudra racheter en offrant une grande partie de ce qu'il a hérité. Voilà. Ce que je voulais vous dire, de ce que j'ai retenu de mon essai d'apprécier un peu mieux Isaac.